Tempestade 2.1.
O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Bonjour et bienvenue sur Tempestade 2.1. C'est votre rendez-vous du samedi après-midi. C'est Léa sur Radio Alpha et je suis ravie d'être à vos côtés pour une nouvelle émission. On est avec vous jusqu'à 16h avec Tony, Julie et Edouard. Salut!
Salut tout le monde!
Bonne tarde!
Salut, salut!
Très contente de vous retrouver en ce samedi. Et à nos côtés pour ces deux heures d'émission, on sera accompagné d'Annie Cicatelli, journaliste et artiste spécialisée dans la broderie. Bonjour Annie!
Bonjour!
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
C'est un plaisir.
Comment tu te sens? Comment tu vas?
Moi, je vais très bien.
Alors, si tu es avec nous, c'est pour parler bien sûr de ton art, de la broderie, mais aussi de ton expérience au Brésil. Tu as vécu pendant plus de 25 ans là-bas. Já falas português?
Falo português, mas do Brasil, não de Portugal.
Et ça s'entend, on entend le petit accent brésilien. Tu participes aujourd'hui à plusieurs expositions. On va parler de tes créations, de tes œuvres d'art créées grâce au crochet. Et puis on parlera également de ton expérience au Brésil à 15h, ton expérience en tant que française au Brésil, et je sais que tu as des anecdotes à nous raconter. On va commencer, l'équipe et nos chers auditeurs, cette émission en musique. Alors, les Brésiliens, il faut se le dire, ils sont très très forts pour mettre l'ambiance. Annie, est-ce que tu es d'accord?
Tout à fait d'accord, complètement d'accord.
Ils sont très très forts pour mettre l'ambiance, mais ils font aussi de très très bons duos. Et c'est le cas de Luan Santana et du Labi, écoutez.
Vou começar dizendo, cê nunca me deu final. E eu nem sei se eu quero.
E mesmo que passe o tempo, mesmo que nada esteja igual, nossa história eu não nego, eu não nego. Não sabia, amor, se isso era amor, mas eu sei o que senti, amor.
Tu e eu, tu e eu, tu e eu. Too bad, que cê fez de tudo para me esquecer. Saiu pegando várias, tentando se fazer. Em vez de aceitar, você tenta negar. Por isso sei que não consegue superar.
Tu e eu, tu e eu, contra o mundo.
Desde que acabou, provou outro amor. Mas eu sei que ninguém como o Joe é que eu sou.
É que eu sou.
Inesquecível de Luan Santana et Julia B. Et c'est parti, c'est le moment de l'émission où on compte le plus sur vous. La semaine dernière, le blind test avait un thème, c'était les années 2000-2002. On s'était bien éloigné de l'actualité. Et ce samedi, Edouard, est-ce que tu as prévu un nouveau thème? Parce qu'après les années 2000, les années 2010, où est-ce que tu nous emmènes?
Cette semaine, ça sera un blind test spécial années 80.
Oula. Mais alors, on n'était pas nés, hein, t'es au courant?
Oui, mais c'est quand même c'est une époque où on connaît toutes.
Années 80 en France, les je peux peut-être m'en sortir parce que j'ai vu le film Star 80, donc ça me maîtrise un peu.
Il y a France, il y a
Portugal, je peux m'en sortir.
Et il y aura du brésilien.
Oula, du brésilien, je m'en sors pas.
Mais ça reste des musiques connues quand même.
Ouais, est-ce que, Annie, justement, tu fais des blind tests de temps en temps?
Oui, de temps en temps, mais c'est pas mon fort. Hein.
Bienvenue au club.
C'est pas le nôtre non plus.
C'est ça. Parce que moi, c'est la musique plutôt des années 70, quoi.
Ah, ah, bah, t'es 10 ans trop tard.
Brésilienne, bien sûr.
T'es 10 ans trop tard, là.
Oui, parce que là, voilà, de la musique brésilienne, française, mais aussi.
Mais aussi anglais.
En vrai, anglais, je pense que ça peut le faire, parce que en général, la musique anglaise, c'est des tubes très connus.
C'est,
donc, c'est
mondialement connu, donc vous aurez aucun souci pour trouver.
Parce que moi, je suis arrivée en France en 87, alors tout ce qui est avant 87 français, je ne connais pas. Non, mais c'est vrai en plus. Bah, hein.
T'inquiète pas, nous, on n'était juste pas nés.
C'est encore pire.
Ça devrait aller aussi. Hein.
Bon, bah, bon courage à tous.
On rigole beaucoup là. On rigole
bon
beaucoup
courage
trop,
à nos auditeurs.
On rigole. Je propose qu'on commence avec le premier extrait. C'est parti. Que vous avez trouvé?
Je vais tenter un coup de poker, vraiment. Est-ce que c'est Jeanne Masse?
C'est effectivement Jeanne Masse.
Toute première fois?
Exactement.
Voilà.
Oh, wow. Allez.
C'est une
mais
musique
plus
connue.
Comment vous connaissez ça?
Ah si, ça je connais pour le coup.
Ah, genre, mais sortir le refrain, j'ai reconnu, mais je connais pas du tout, quoi.
Bah ouais, écoute.
Mais ce qui est dur avec les années 80, c'est qu'on connaît les musiques, mais les chanteurs, parfois, on...
Ça, au fond de moi, j'étais, s'il te plaît, laisse le refrain.
Pardon, mais elles se ressemblent un peu toutes. Hein. Moi, j'imagine tous des rollers avec des pattes def. Hein.
C'est bah, c'est les années 80.
Mais t'as pas besoin, elles sont toutes pareilles.
Voilà. En tout cas, gros classique à l'époque. Hein,
gros. Et encore aujourd'hui.
Hein. Et encore aujourd'hui.
Ouais.
Je dis pas convaincu, mais on enchaîne avec le deuxième extrait. Est-ce que vous avez trouvé l'équipe?
Est-ce que le titre c'est pas I'm so excited? Bon,
ça c'était simple, on l'a entendu dans la musique, mais est-ce
attends,
que vous avez...
Amine, t'avais pas une idée?
Je pensais à Irène Cara, mais je sais
non,
pas.
Non, c'est pas ça.
Non.
C'est que j'ai même pas.
C'est un groupe américain.
Ah, c'est un groupe en plus. C'est pas ABBA, si.
Tu vas me le dire.
Ils sont pas américains.
Non, c'est pas ABBA.
Ils sont pas américains, Barry.
Mais ils chantent en anglais, en soi.
C'est que des femmes.
Ouais, ça, on avait entendu.
Et le mot sister dans le nom du groupe.
Sister Act. Moi, les tentes, comme la comédie musicale, j'envoie tout.
Tente tout.
Moi.
Vas-y, Tony. Vas-y.
Comme la comédie musicale, j'envoie tout. Non, je sais pas.
C'est The Pointer Sister.
Ça
vous dit absolument rien.
Je préfère Sister Act.
Tout le monde connaît la chanson, mais personne ne connaît ce groupe.
La musique, c'est un classique, c'est ça qui est fou.
Mais tout le monde connaît le refrain.
Mais en fait, c'est tout le monde connaît juste I'm So Excited.
Exactement.
C'est tout. On n'a pas besoin de plus.
Voilà. Très gros classique en tout cas. On enchaîne avec le troisième extrait.
Alors, Annie, tu avais une petite idée?
Non, je pensais à Loin Vabras parce que je l'ai connu personnellement.
Oh.
Et malheureusement, ils ont eu un quiproquo avec cette chanson, une question de droit d'auteur et tout. Donc, elle a fait que cette chanson et elle est repartie au Brésil. Elle avait une maison d'hôte à Rio et elle a été assassinée dans les années, début des années 2000, je crois. C'était une histoire terrible.
À cause de cette musique?
Non, non. Au Brésil, il y a eu un souci et puis elle a été assassinée pendant un cambriolage.
Oh là là.
Oh la pauvre.
Et c'est pour ça que je pense toujours à elle quand j'entends cette chanson. Et du coup, Lambada, Lambada, c'est le groupe Kaoma.
Ah,
la chanteuse s'appelle Luava Brás.
C'est pour ça, c'est un groupe en fait.
Kaoma, c'est le groupe. C'est le groupe, c'est la bonne version. Hein.
Et c'est le groupe Kaoma.
Kaoma.
En tout cas, tout le monde la connaît, celle-là.
Ah oui.
Moi, j'étais incapable de vous dire ni le titre ni l'artiste. Heureusement qu'Annie est là pour nous aider.
On l'a déjà entendu au moins une fois.
Ah oui,
même
une fois d'ailleurs.
Ah oui. C'est vachement bien pour danser. Hein.
Ouais, sûr. Même ça passe dans. Enfin, je suis sûre que c'est dans plein de films, à la télé, c'est partout.
Oui, mais personne ne parle de la chanteuse, c'est ça qui me.
Bah non, on était pas au courant.
Bah, vous regardez sur internet, vous allez voir, vous cherchez la chanteuse Kaoma, à Voloir Vabraz, et il y a son histoire. Hein. très dommage, quoi, parce qu'elle a eu un succès phénoménal, mondial, hein, son succès. Et il y a eu vraiment un quiproquo des droits d'auteur et tout. Et puis après, ça s'est terminé comme ça, dramatiquement. Avec elle. Je vous rappelle d'elle parce que j'ai passé un Noël chez elle.
Oh, mais vous étiez proche.
Oui, mais quand elle était... Okay. Après son succès, une fois elle a passé à la radio, on s'est rencontrés et puis j'ai fini avec ma fille. On a passé un Noël ensemble. Et du coup, à chaque fois que je la rencontrais, on se parlait et tout. Et puis à la fin, ben voilà.
Ouais, mais la violence au Brésil, c'est,
dramatique. Hein, c'est un gros problème, un gros souci hein, pour les gens qui habitent là-bas. C'est dur. Hein.
Et on va en parler au moment de l'interview, puisque tu as été journaliste au Brésil pendant plusieurs années. On parlera de la difficulté, justement, d'exercer son métier dans ce pays-là.
Je vous propose sur ça qu'on enchaîne sur le quatrième extrait. C'est un énorme carton, vous êtes obligés de connaître. C'est
oula.
Allez, la pression, mais j'aime bien.
La question, c'est qui ne l'a pas ?
Oui, plein de gens ici ne l'ont pas.
Non,
il l'a pas, il l'a pas.
Non, il faut être honnête. Non, quand j'ai entendu les premières notes, j'ai tenté de deviner.
Oui, mais...
mauvaise pioche.
Il veut du sardou, il veut du sardou.
Il n'arrête pas de nous demander le Connemara.
Ouais, ouais.
Mais la version longue, attention.
Ah non, Edouard, s'il te plaît, ne nous mets pas ça.
La version de 10 minutes pour nos auditeurs, histoire de...
Merci, Edouard, merci.
J'ai une petite anecdote. Est-ce que vous savez combien d'albums il a vendu ?
Oh là 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 là. Dans toute sa carrière, hein.
Toute sa carrière.
En vrai, je suis joueur, donc je vais continuer. Je vais dire 1 milliard.
Non.
D'albums ?
Peut-être pas.
Ouais, on sait jamais.
Peut-être pas à ce point-là. C'est en millions, c'est en centaines de millions.
Moi, j'irais beaucoup.
Oui, bah oui. C'est à peu près 300 millions d'albums.
Ouais, 300 millions, 1 milliard.
Ouais.
À quelques disques près, est-ce que c'est pas pareil ? En vrai, de vrai.
Bon. Ne fais pas comptable, hein, s'il te plaît. Hein.
C'est pas prévu.
Sur ce classique, on enchaîne avec l'avant-dernier extrait. C'est parti.
Ne la laisse pas tomber.
C'est Coquille Claire.
Elle est si fragile. Femme libérée.
C'est pas Coquille Claire.
C'est bien Coquille Jingler.
On est en direct là.
On est en direct, oui. On est en direct là. Et je pense que nos auditeurs chantent aussi actuellement.
Non, une certaine génération, peut-être pas l'autre.
C'est bien.
Mais je sais pas le nom du chanteur par contre.
Coquille Jingler.
Coquille Jingler.
Vous savez comment je
l'ai connu. Star 80, le film.
Je connais la chanson, je sais les paroles, mais je sais pas le nom.
Vous savez comment j'ai connu cette musique. C'était en primaire, c'était à cause d'une blague de Toto. C'est ça le pire.
Blague de Toto, dis donc.
C'est Toto aux toilettes.
Ah.
Je suis pas sûr de rouler à la fin.
Voilà.
Okay, allez, on passe.
On enchaîne.
Par petite anecdote, Coquille Jingler, il a sorti plusieurs sons, mais c'est le seul qui a cartonné. Dernière musique, vous vous sortez très bien. On enchaîne, c'est parti.
Ah, Gilberto Gil.
Gilberto Gil.
Magnifique chanson. J'adore. Minha alma cheira talco, feito bumbum de neném.
Est-ce que tu as le titre de cette musique?
Subo neste palco, minha alma cheira talco. Non, je me
dit, c'est un des mots que tu as dit dans les.
Paoku, non.
Paoku, c'est Paoku, ça, exactement.
Ouais. J'adore
bravo,
cette chanson.
Bravo, bravo,
ouais, ouais, mais et c'est de mon époque. Hein.
Les gars, là.
Ouais, mais pour votre défense, elle était née.
D'accord, je sais pas ce que tu veux dire par là, mais.
C'est bien, vous n'étiez pas née.
Elle n'est pas recevable, cette.
Le juge Edouard refuse l'excuse. Et voilà, c'est la fin du Blind Test. On va se retrouver dans quelques instants pour une autre rubrique, l'échange de la semaine. Alors restez bien avec nous sur Radio Alpha.
Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui.
Fora daqui. Merci d'être avec nous sur Radio Alpha. C'est parti pour l'échange de la semaine. Et aujourd'hui, je fais un focus sur le Brésil. Et ça tombe bien, à nos côtés aujourd'hui, Annie Cicatelli, qui a été journaliste au Brésil pendant plus de 20 ans. Annie, il y a quelques semaines, le Brésil était dans l'actualité. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu en terre lusophone pour une visite d'État de 3 jours. C'est son premier voyage d'État au Brésil. Est-ce que tu as suivi cette rencontre?
Oui, un peu de très loin, parce que bon, ces visites, normalement, on attend la suite, quoi. C'est surtout la suite qui nous intéresse.
Et il y a quelque chose qui t'a marqué dans cette visite, non? Sur les réseaux.
Alors, sur les réseaux, les gens ont fait plein de blagues, genre La La Land, le mariage Lula-Macron, c'est le grand amour, on s'aime à tout jamais et tout. Donc, à voir ce qui va se passer, quoi.
Et Emmanuel Macron, sur X, a confirmé que c'était l'amour fou.
Ah oui, oui, non, filles. Il a confirmé, Macron. Hein, il a dit oui, oui, gros mariage, grand amour. Pour la vie, Brigitte, salut.
Merci pour tout.
Mais bon. Merci, mais bon, là...
Merci pour mes discours. Mais...
L'écologie, la préservation du... de l'environnement est beaucoup plus importante.
Voilà, ça c'est un des éléments qui est ressorti pendant cette visite d'État au Brésil. Alors, pour rappel, il y avait eu des tensions à l'époque avec l'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, qui avait insulté Emmanuel Macron et son épouse lors d'une crise diplomatique en 2019. Les relations s'étaient donc dégradées depuis cet épisode-là. Alors je vais faire un récapitulatif des sujets, des accords, des désaccords aussi évoqués entre les deux présidents lors de cette visite. Alors lors de la première journée, Emmanuel Macron et Lula da Silva ont annoncé un programme vert pour la protection de la forêt amazonienne au Brésil et en Guyane. Donc d'ici 2028, la France et le Brésil vont investir conjointement 1 milliard d'euros pour l'Amazonie. Est-ce que, Annie, tu crois qu'un jour on arrivera réellement à protéger l'Amazonie, cette forêt si importante pour le monde ?
Alors le problème, c'est que bon, la forêt, elle reprend toujours sa place. Hein. Je me rappelle quand ils avaient construit la transamazonienne, c'était une grande route qui traversait toute la forêt. Quand ils arrivaient au bout, la forêt avait déjà recommencé à prendre sa place. C'est-à-dire que si on laisse la forêt en paix, elle va se débrouiller toute seule. Ça, on a vu très bien ça pendant le Covid. Quand on avait laissé même les eaux, ils étaient en paix, tranquilles, il n'y avait personne, et ben, il y a eu plein de reproductions, il y a eu plein de bébés et tout. C'est-à-dire il faut que l'homme arrête de se mêler de choses qui ne le regardent pas. Laissons la forêt tranquille, en paix, arrêtons de bouger, de couper. Le problème au Brésil, c'est que il y a beaucoup d'éleveurs de bétail qui ont besoin de terre pour... leurs animaux, et du coup, ils coupent des arbres, et puis ils s'installent, et puis voilà.
En tout cas, sur ce sujet de l'environnement, les deux présidents semblent être sur la même longueur d'onde et souhaitent agir pour protéger l'environnement. Et ce qui est ressorti de cette rencontre, lors de cette première visite, c'est la place des peuples autochtones. Emmanuel Macron a d'ailleurs décoré de la Légion d'honneur le cacique Raoni, qui était venu en France il y a quelques mois. C'est une figure planétaire de la défense de l'Amazonie et de la culture des peuples autochtones. On parle de peuples autochtones dans l'actualité depuis quelques temps, depuis quelques mois déjà, de la place de ces peuples-là. Est-ce que tu as pu en rencontrer lorsque tu étais au Brésil?
Oui, alors j'en ai rencontré parce que dans l'état où j'habitais, c'est l'Espírito Santo, il y avait encore quelques tribus, mais très malmenées, quoi. À mon époque, c'était dans les années 80, on n'avait pas cette notion de préservation même de l'être humain, quoi, parce que ce sont des êtres humains qu'il faut respecter. J'espère que des choses vont se passer, parce qu'avec Bolsonaro, il y a eu beaucoup de soucis. Il a beaucoup fait marche arrière sur plusieurs lois de préservation de ces tribus.
Ça a été très compliqué pendant
très
les
compliqué.
Années Bolsonaro.
L'année prochaine, c'est l'année France-Brésil, encore une fois. L'année prochaine, c'est l'année en France, l'année mondiale des océans, l'année des océans. Donc j'espère qu'au niveau de préservation, d'écologie, d'environnement, des choses vont se passer, j'espère, mais bon.
Et puisque tu parles justement de l'océan, cette visite, elle a également été marquée par un partenariat stratégique entre la France et le Brésil sur les sous-marins. Emmanuel Macron s'est rendu sur le chantier naval d'Itaguaï pour l'inauguration d'un sous-marin de conception française. Il faut remonter à 2008, lorsque Nicolas Sarkozy et Lula da Silva ont signé un accord de coopération militaire qui a permis la construction au Brésil de 4 sous-marins à propulsion classique. C'est un accord à 6,7 milliards d'euros pour développer justement les capacités sous-marines du Brésil et son industrie. Et puisque je vous parle d'investissement et d'industrie, saviez-vous que Paris est le 4e investisseur au Brésil avec plus de 40 milliards de stocks d'investissement dans le pays?
Wow.
Énorme.
Ah, ça fait beaucoup.
Et vous savez que le Brésil est très, très francophile, hein?
Oui.
C'est plus facile, quand on est au Brésil, c'est plus facile de venir en France, au niveau voyage et tout, découverte d'une autre culture, que d'aller en Argentine, par exemple, qui est un pays voisin. Vous voyez, même si la distance n'est pas la même, mais au niveau de l'amour, de la volonté de découvrir une autre culture, la France est beaucoup plus proche que les pays d'Amérique latine.
On s'entend mieux sur ces questions-là.
Quand on se balade à Paris, on voit qu'il y a beaucoup de touristes brésiliens. Hein.
C'est vrai, même installés actuellement à Paris. Et on parlait justement des accords. Je vais vous parler maintenant des désaccords entre les deux présidents, Lula da Silva et Emmanuel Macron. Je poursuis le décryptage dans un instant, juste après Lose Control de Teddy Swims. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm losing control when you're not next to me? Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problem at it. Problem is, I want your body like a feeling, like a bad habit. It's hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon black magic, and it takes two. Problematic. Problem is, when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling.
Yeah, you're breaking my heart, baby. You make
Et on poursuit l'échange de la semaine. Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron s'est rendu au Brésil où il a rencontré le président Lula. Je vous parlais il y a un moment des accords entre les deux présidents. Je vais maintenant vous parler des désaccords et des sujets qui les opposent. Évidemment, il y a le sujet de la guerre en Ukraine. La France et l'Occident soutiennent Kiev depuis le début de l'offensive russe, tandis que Lula s'est montré moins enthousiaste à soutenir les Ukrainiens. Et il met en avant son côté pacifiste. Le président brésilien refuse l'envoi d'une aide en Ukraine, qu'elle soit militaire ou financière. Et à contrario, la France et l'Ukraine ont signé en février 2024 un accord de coopération en matière de sécurité. Il y a un autre désaccord aussi sur le devant de la scène, celui du Mercosur. Un sujet qui d'ailleurs n'a pas été évoqué officiellement lors de cette visite. Alors pour rappel, le Mercosur, c'est un marché commun et une alliance économique composée de 5 pays d'Amérique du Sud. Le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. Et à 5, ils établissent des points d'entente sur leur politique économique agricole et industrielle. Et en gros, il s'agit d'une zone de libre-échange entre ces pays afin d'abolir les droits de douane et de ne pas être limité par les frontières. Donc c'est un marché porteur qui se classe à la 4e place mondiale, un marché majoritairement mené par le Brésil qui produit chaque année les 3/4 de la richesse de cet ensemble. Alors pour rappel, le Brésil est le premier exportateur mondial de...
Cacao, non, je sais pas.
Est-ce que vous avez une idée? Alors le Brésil est le premier exportateur mondial de sucre, de soja et de café.
Ah voilà.
Non, des trois. Cacao.
Ah oui, j'ai dit cacao.
T'as pas dit café.
Je voulais dire café. Je voulais dire café.
Presque, presque.
Mais tu vois, moi j'ai le sucre, toi t'as le café.
Voilà.
On se complète bien.
Vous complétez. Et pour vous donner un exemple, en 2022, la France a importé 3,3 millions de tonnes de soja, dont environ les 2/3 du Brésil, ce qui est énorme.
Ah oui, quand même.
C'est énorme. Et attendez, la suite. Le Brésil aussi est leader sur d'autres secteurs. C'est le premier fournisseur mondial de viande bovine, de poulet et de maïs.
Ah, maïs, j'adore.
Est-ce que vous le saviez?
Je ne savais pas.
Du coup, ça veut dire le maïs que tu me prends à KFC, il vient du Brésil.
Alors moi, je ne mange pas dans les fast-foods, mais...
C'est possible.
Et moi, j'ai fait attention à ma ligne. C'est possible,
mais c'est du maïs. C'est avec KFC, c'est du maïs, tu vois.
Oui.
En tout cas, on parle de production, on parle d'industrie, mais cependant, le Brésil a massivement misé sur les cultures transgénétiques et les pesticides chimiques. Ah. Et c'est aujourd'hui le premier consommateur mondial de pesticides aussi.
Aïe.
Donc,
évidemment,
ça pose question. Et donc, pour revenir sur la question du Mercosur, Lula da Silva espère un jour voir un accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Un accord qui entend donc supprimer la majorité des droits de douane entre les deux zones. Cependant, ces pourparlers ont été suspendus il y a quelques mois, en ce début d'année, à la demande de la France.
Bah, parce que les agriculteurs n'étaient pas contents. Hein.
Exactement, Julie.
Tu as raison.
Les agriculteurs n'étaient pas contents et pendant cette crise agricole, tout à fait, Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont annoncé s'opposer à tout accord de libre-échange avec le Mercosur, évidemment. Et tu l'as dit, Julie, c'est un traité qui inquiète les agriculteurs français et européens, qui crée une concurrence déloyale face au Brésil. Donc voilà, cette visite officielle a relancé les discussions entre les deux pays. La France a fait le choix de développer des liens forts avec la première puissance sud-américaine, le Brésil. Et les deux présidents se retrouveront à Rio en novembre pour le G20 et lors de la COP30 l'an prochain au Brésil, à Belém. Voilà, c'était tout pour l'échange de la semaine. On va se retrouver dans quelques instants, cette fois-ci pour Ushka Vernouche de Julie. A tout de suite, toujours sur Radio Alpha.
Se revoir comme des amis, sempre. Regarder ailleurs pour que j'oublie, jamais.
Riabbracciarti sarà come bere miele. Volerai fino in Qatar, sfiorando il mare per trovare te. Stavo sognando di stare altrove, nella mia mantella di ricoveri, stringendomi a te. Mi piaceva quando avevo sulla tua collana, stare con te sul jet ski era meglio del nirvana. Tu ci pensi mai, senza me come stai? Se muori di sete fai di me la tua fontana.
Se vuoi anche con me lì, sempre regarde ai apoco. Difficile à avoir, mais difficile à garder.
toi la rampe de ton corps me reste. Et si l'on essayait, est-ce que tu m'en voudrais? Comment te dirais-tu quand nos deux cœurs restent rivés? Je veux voir rire comme des amis. Je ne peux regarder ailleurs pour que j'oublie. Jamais. Non ci prende. Se vuoi con me vieni. Sempre regarder ailleurs pour que j'oublie. Jamais. Anche se le cuore pensa a me. Sempre finché non ci prende la police. Jamais.
Ti piaceva quando avevo sulla tua collana.
Je me consume toi la ronde tu come resta. Anche se le cuore pensa a me.
Yeah.
C'est le moment de Os Cadernos de Julie, c'est la rubrique en portugais de cette émission et on va parler de plusieurs livres en lien avec le 25 avril, Julie.
Et sim, pois a semana passada foi o primeiro sábado deste mês de abril, este mês aniversário da Revolução dos Cravos. Conheces um bocadito a Revolução?
Sim, conheço.
Ainda bem. Vamos ver se conheces estes livros. Agora que relembramos as bases históricas deste evento, quero fazer-lhes uma pequena lista de livros sobre o assunto. E não se preocupem, são livros pequenos e acessíveis a todos. Mas são todos em francês, ou seja, vocês podem comprá-los e dar-os aos seus amigos. Mas vá, pequena pergunta para vocês. Têm uma ideia dos livros, dos autores ou historiadores dos quais vou falar?
Yves Leonard, com certeza. Yves Leonard, já falaste muitas vezes dele aqui no programa.
Pois claro. Há um que já recebemos há pouco tempo.
Arthur Pereira?
Não,
Vítor Pereira.
Vítor Pereira, portanto, exatamente.
Se calhar também o Mário Gomes?
Não. Já tens 2/3. O outro eu também não conhecia, conheci há pouco tempo. Então, primeiro, Yves Leonard. Tenho 2 livros dele a apresentar. Já falei de um o ano passado. É Sous les œillets, la Révolution, na editora Chandaigne. É um livro muito pequeno, que saiu o ano passado, como disse, e que explica mesmo o assunto da Revolução. Ou seja, o que se passou antes, o que se passou durante a Revolução e um bocadito depois. Sabem tudo. E também têm fotos, mapas, etc., para mesmo compreender o que se passou. Um outro livro que saiu há pouco tempo, que saiu este ano, com o Yves Leonard, é Lumière d'Avril, também na editora Chandaigne. É um livro pequeno e o texto do Yves Leonard não é a maior parte do assunto. A maior parte são fotos de Alessio de Andrade, um brasileiro que estava presente, acho que foi no verão, depois da Revolução, em 74. E as fotos são incríveis. Há preto e branco e cor, mas sobretudo preto e branco, e são fotos que nunca tinham saído antes. Agora já querem comprar o livro, não?
Já
à vontade. Ani, já sabes o que fazer depois do programa. E Vítor Pereira agora. Vítor Pereira, já recebemos. Lembram-se do título do livro ou não? Posso pedir? Léa?
C'est le peuple qui commande.
Exatamente.
E há outra coisa por trás, não?
La Révolution des œillets, 1974-1976. É um livro que trata mais a editora é Du Détour, é importante dizer. É um livro que trata mais da Revolução e do depois da Revolução. Porque sabem, ou não sabem, se calhar, que houve... algumas pessoas dizem que a Revolução durou 2 anos. Porquê? Porque durante 2 anos não estava tudo muito bem acabado. Ou seja, o país passou de fascismo à esquerda, mas esquerda quase comunismo. E foi um pouco... uma experimentação para toda a Europa. Toda a Europa queria saber o que é que se ia acontecer neste país que viveu quase 40 anos, mais de 40 anos, em ditadura fascista. E eu acho que o Vítor Pereira explica isso tudo muito bem. E, aliás, vocês sabem que eu gosto de passar áudios no programa. Então, eu pedi ao Vítor Pereira nos explicar porque é que era tão importante o 25 de Abril para ele e também ele tem uma pequena surpresa para vocês.
Ne pas pouvoir parler librement, ne pas pouvoir s'embrasser librement dans la rue, ne pas pouvoir contester, ne pas pouvoir faire grève, ne pas pouvoir manifester, avoir peur d'être arrêté et torturé, devoir faire un service militaire qui pouvait durer jusqu'à 4 ans et devoir se battre en Afrique où on risquait de mourir ou de tuer. Tout ça, c'est ce que enduraient les Portugais avant le 25 avril 1974, des conditions qu'on a du mal à imaginer dans un pays occidental, d'absence de liberté, de peur constante dans sa vie. Et donc le 25 avril 1974, quand des militaires font un coup d'État pour mettre fin à la dictature, ils mettent non seulement fin à un régime autoritaire, mais aussi à un empire colonial qui reposait sur la violence, de connaître un développement économique et de rentrer un peu plus tard dans l'Union européenne. Donc le 25 avril, c'est une date très importante pour tout cela. Et c'est ce que j'explique un peu dans mon livre que vous pouvez gagner grâce à l'émission. Merci beaucoup.
Muito obrigada, Vitor. E viram uma pequena surpresa para vocês. Vão poder ganhar um exemplar do livro C'est le peuple qui commande. La révolution des idées 1974-1976. Desde esta segunda-feira, não é, Lia?
Isso mesmo.
No Instagram 15. E Facebook, já sabem. Vão poder, então, ler este livro incrível. Mas outro livro muito importante, que ainda não saiu, mas que vai sair dia 19 de abril, é Découvrir la révolution des idées. De Hugo Paeta, nas edições Social. É um livro muito pequeno também, 200 páginas, só 10 euros. É verdade que não disse o preço dos outros, mas podem encontrar. Este ainda não saiu, por isso é importante fazer a promoção. Quem é Hugo Paeta? Eu também não conhecia. É a pessoa que eu descobri nesta lista. É um sociólogo, ou seja, os outros são historiadores. Ele é sociólogo, é mestre de conferências na Universidade de Lille, no norte da França. E é co-diretor da revista Contretemps, uma revista de sociologia. Já perceberam? Então, este livro tem também este aspecto mais de sociologia, enquanto os outros é mais história factual. É um livro, então, pequeno que permite descobrir e compreender de maneira fácil, como ele chama, a última revolução social do continente europeu. Achei a fórmula interessante, não acham? É verdade que é a última revolução que conheceu o continente europeu, porque mesmo se a ditadura espanhola acabou depois, não acabou com uma revolução. Já conhecias a história da Revolução, Annie, bocadito?
É, a gente estuda no Brasil, né, essa Revolução, porque foi uma coisa impressionante, né? Foi uma coisa assim, uma Revolução sem tiro.
Pois.
Não é? Sem...
Um bocadito, mas quase sem, sim.
É, é.
Foi qualquer coisa incrível.
D'où le nom? Revolução dos escravos, Revolução des Oies.
Muito poético.
É muito poético.
Eu gosto muito. É. Mas pronto, já sabes, tens que comprar estes livros todos.
Uhum. Et rendez-vous lundi donc pour tenter de gagner un exemplaire du livre de Victor Pereira. Alors rendez-vous sur Instagram et Facebook ce lundi pour participer. Vous allez dans les commentaires, vous mentionnez la personne avec qui vous souhaitez justement partager ce livre ou le lire et puis juste liker le post et voilà, vous êtes enregistré pour le tirage au sort. Et puis le tirage au sort aura lieu dans 2 semaines. Je sens qu'Annie va participer.
Ah, bien sûr.
Elle va participer.
On compte sur vous.
Et voilà, c'est la fin de Ushka Danush dès Julie. Je vous retrouve dans quelques instants, et bientôt 15h, hein, pour l'interview avec Annie Cicatelli. On va parler de son parcours, de son expérience au Brésil, mais aussi de la broderie et de ses expositions. A tout de suite.
Precisei, não pedi que tu me desses tudo, nem quase tudo. Eu nunca reclamei, fiz de ti dono do meu futuro. Nunca quis um restaurante caro, e se quiser sou eu que pago. Eu não fiz de ti nenhum culpado. Mas se era para te ter avisado, queria que pegasses no carro, batesses à porta e implorasses. Juro, eu só queria que chorasses e me contasses o que é que viste em mim. Queria que pegasses no carro, batesses à porta e implorasses. Juro, eu só queria que chorasses e me contasses o que é que viste em mim.
Quando te escutei que só por te ter eu era um sortudo, disseste tudo. Eu nunca fui ninguém, sou gota d'água no teu sobretudo. Ah, e se não dá então há que assumir, já não dá não. Eu já não vou remar, eu já não vou guiar contra a mão. Se aquela que dava cá uns tempos para mim já não tá não. Se aquela que dava cá aos tempos para mim já não está, não. Se não tens a noção, por ti eu circulava às 8 nem se 19. Eu subia a montanha mais alta só para sentir frio. Eu mergulhava à noite no guincho mesmo quando chove. Eu entrava no carro, mas querida, não tens a noção, que por ti eu circulava às 8 nem se 19. Eu subia a montanha mais alta só para sentir frio. Eu mergulhava à noite no guincho mesmo quando chove. Eu entrava no carro.
Queria que pegasses no carro, batesses a porta e implorasses. Juro, eu só queria que chorasses e me contasses o que é que viste em mim. Queria que pegasses no carro, batesses a porta e implorasses. Juro, eu só queria que chorasses e me contasses o que é que viste em mim.
Uau.
Nunca quis o restaurante caro. Se sou eu que pago, eu não fiz de ti nenhum culpado. Mas se era para te ter avisado.
C'est parti pour la deuxième heure de Thermstadt de Point. J'espère que vous allez bien ce week-end et que vous êtes en forme. En tout cas, vous êtes à l'heure pour l'interview. C'est maintenant et ce samedi, c'est Annie Cicatelli, journaliste et artiste spécialisée dans la broderie, qui est avec nous. Annie, tu as vécu plus de 25 ans au Brésil. Plus de 25 ans, c'est un bon bout de temps d'une vie. Pour rappel, tu es française, tu es née en région parisienne. Comment tu t'es retrouvée au Brésil ?
Alors, mon père est menuisier, il était passionné de bois et un jour il a décidé, bon ça a été une réflexion en famille et puis il a décidé de partir en Amérique du Sud. Alors au départ c'était en Argentine, mais le bateau qu'on avait pris s'arrêtait à São Paulo et donc on est resté au Brésil. On a vécu quelques temps à São Paulo et puis après on est parti dans l'état d'Espírito Santo, à Vitória, qui a une île au bord de l'Atlantique. Et moi, j'ai vécu là-bas pendant 25 ans.
Et vous avez réussi à vous intégrer facilement au Brésil en tant que Français, même pour la langue, ça devait être compliqué.
Au début, c'était compliqué, hein, parce que déjà, on ne parlait pas le portugais. On est arrivé, on ne parlait pas du tout. Et puis, à l'époque, au Brésil, dans les années 60, c'était quelque chose, hein. Les femmes ne portaient pas de pantalons, déjà, dans la rue. Et puis, il y avait plein de fruits exotiques qu'on ne connaissait pas.
Qu'est-ce portaient les femmes dans la rue?
Des robes, hein. Elles ne portaient pas de pantalons. Hein. Je me rappelle ma mère qui portait un pantalon.
Il fallait couvrir les chevilles aussi,
voilà.
C'était des
non,
cheveux plombs.
Non, c'était pas ça, mais les femmes ne portaient pas. Ma mère, elle raconte toujours que les gens dans la rue étaient... presque choquée de l'avoir en pantalon.
C'était
quoi.
Mal vu.
Oui, c'était mal vu, ouais.
Ah oui.
Bah, en France, il y avait une loi qui a été...
Ça l'était aussi.
Oui, bah oui, qui était...
Voilà. Il y a une loi pour autoriser le pantalon.
Voilà.
Oui. C'est dingue.
Et il y avait les fruits exotiques aussi, le maman, la papaye.
Oui.
Hein, les gens, ils disent que ça sentait mauvais. Et puis, c'est vrai qu'après, quand on s'habitue, c'est bon. Et puis, la banane à la terre, la banane plantain, qu'on connaît maintenant en France, mais qu'avant, on ne connaissait pas. Il y avait plein de choses comme ça, différentes. Hein. Le Brésil des années 60, ce n'était pas le Brésil d'aujourd'hui.
Et vous avez été bien reçue au Brésil
Ah, mais sans problème, hein, parce qu'à cette époque, il y avait un grand soutien du gouvernement envers l'immigration, ce qu'il n'a pas aujourd'hui. Mais à l'époque, oui, les étrangers étaient bien reçus, surtout quand ils amenaient des capitaux, quoi. Quand ils venaient pour investir, quoi. Donc,
parce que c'était compliqué économiquement là-bas.
Oui, dans les années 60, oui. Hein, d'où la révolution de 64.
La vie était dure, mais c'est une réalité que peu connaissaient. Tu me parlais justement de cette colonie japonaise qui était venue s'installer en Amazonie.
Ah oui, ça c'était en Amazonie. Hein, en Amazonie, dans les années 30, il y a eu une grosse famine au Japon. Et le gouvernement japonais avait acheté au gouvernement brésilien des terres en Amazonie pour envoyer ses habitants qui, au Japon, mouraient de faim. Donc, au Brésil, en Amazonie, il y a eu plusieurs villages qui ont été créés avec des Japonais. Donc, quand on arrive là-bas, tout est en japonais. Wow. Le supermarché, il y a plein de produits japonais. Le cimetière, il y a des produits japonais. Il y a des temples bouddhistes. Il y a à l'école, il y a la gymnastique avant les cours. Les enfants apprennent japonais. Moi, j'ai des neveux et nièces qui ont appris le japonais en Amazonie, quoi. C'est des trucs de fou. Et donc, l'immigration, à une époque, était très, très bien vue.
Et c'est au Brésil que tu es devenue journaliste ?
Voilà, j'ai fait mes études au Brésil. J'ai fait toutes mes études au Brésil. Une grosse partie de ma vie au Brésil. Le tout début de ma carrière au Brésil. J'ai fait mes études au Brésil. Je me suis mariée au Brésil. J'ai eu un enfant au Brésil. Tout au Brésil. Et après, j'ai décidé de revenir en France.
Le début de ta vie était au Brésil.
Voilà.
Tu es tombée un petit peu amoureuse du Brésil aussi, non ? Parce que pour y rester autant de temps...
On s'habitue à vivre dans un pays où la famille est installée, quoi. Je pense que l'immigration portugaise en France, c'est la même chose, hein. Une fois que les parents arrivent, on s'installe, on apprend la langue, on a des copains, des copines.
On est bien intégrés.
On sort en discothèque. Et puis voilà, quoi. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le pays de nos parents n'est jamais notre pays. Il faut faire très attention parce que moi, j'entends des fois des immigrés qui disent oui, surtout les pays du Maghreb, oui, parce que et tout. Mais c'est la vision de nos parents. La vision de mes parents par rapport à la France, c'est pas du tout ce que j'ai trouvé quand je suis arrivée en 1987, quand je suis arrivée en France.
C'est pas la même réalité.
C'est pas du tout. Moi, je me suis dit, mais il est où le pays de mes parents ? Il est plus là, quoi. Du coup, parce qu'ils avaient une autre idée. Et c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que l'immigration, elle est vachement intéressante et tout. Et c'est une richesse, moi je trouve que c'est une richesse. Moi j'étais immigrée deux fois, une fois au Brésil, une fois en France. En France, quand je suis arrivée en 87, je ne parlais pas le français. Je ne parlais que portugais. Et une fois, à la mairie d'Argenteuil, on m'a dit « Mais pourquoi vous ne retournez pas dans votre pays ?» Je dis « Mais madame, je suis dans mon pays
!»
C'est pas parce que je parle mal avec un accent que je ne suis
vous
pas dans mon pays.
Catégorisé directement.
Directement, immigré, rentre chez toi.
C'est violent quand même. Hein.
C'est très violent. Non, mais c'est pour ça que je dis surtout le pays de nos parents n'est pas notre pays. Il faut faire très attention à ça.
Parce que même si tu es née en France, tu étais vue comme étrangère.
Voilà.
Et puis en plus, c'était à Argenteuil quand même.
Et Argenteuil, où je suis née, quoi. C'est-à-dire que quand je suis revenue, je dis, je vais revenir vers mes racines. Il y a toujours une histoire de racines et tout. On veut voir où on est née et tout. Et puis, on est vachement un peu déçus, quoi. Parce que nos parents nous ont passé une idée d'une chose qui n'existe plus. Parce qu'entre 60 et 87, il y a 20 ans quand même d'écart.
Bien sûr.
Donc, il s'est passé plein de choses, quoi.
Et avant de parler de cette arrivée en France pour retourner au Brésil, pour quel média travaillais-tu ?
Alors, j'ai travaillé pendant longtemps pour une radio et pendant longtemps aussi pour la presse écrite. Parce qu'au Brésil, la loi stipule qu'un journaliste ne peut travailler que 5 heures par jour.
Oh !
À l'époque.
C'est pas mal, 5 heures par jour.
Parce que c'est un métier qui épuise intellectuellement et tout. Et puis, il faut faire des recherches, il faut faire plein de trucs. Il faut lire beaucoup quand on est journaliste, en principe. Donc, les gens, ils travaillaient toujours, ils avaient deux boulots, quoi. Un boulot le matin et un boulot l'après-midi, c'est ce qui était mon cas.
T'avais deux boulots.
Voilà, je travaillais le matin pour une radio et l'après-midi, je travaillais pour la presse écrite.
Donc 10 heures par jour, 5
heures. 10 heures par jour, voilà. Et des fois, samedi et dimanche aussi, et les jours fériés, il n'y avait pas de jours fériés, quoi.
C'est le métier de journaliste. Et en 1986, tu as remporté le prix ESSO, le prix le plus important au journalisme au Brésil. Grâce à quel sujet tu as remporté cette distinction ?
Alors, c'était un truc impressionnant parce que j'avais fait une série de reportages sur la pollution. Il y a une grosse compagnie au Brésil qui s'appelle Compagnia Vale do Rio Doce, qui est avec un port pour l'exportation de minerais de fer. Et ce port, il est situé presque en centre-ville. Okay. Donc, il y a une pollution très importante. Et je me rappelle qu'à l'époque, les gens disaient « Tu ne vas pas pouvoir faire ce reportage parce que le proprio du journal, il est un des actionnaires de la compagnie. Il ne va pas laisser. » Mais j'ai fait la chose d'une manière que, petit à petit, j'ai réussi à créer. Et pendant plusieurs... week-end, je sortais une série de reportages sur la pollution, d'où ce prix. Alors, quand je suis arrivée en France, je cherchais du boulot et la compagnie Esso, y avait une petite annonce. Je me suis présentée et ils ont voulu me voir parce qu'ils ne connaissaient pas du tout le prix. Ils disent, c'est quoi ce prix de journalisme et tout? Je dis, c'est le plus important prix au Brésil, quoi. C'est ce qui m'a permis de déménager en France à cause de l'argent que j'ai reçu. Et ils ne connaissaient pas. Et ça m'a fait rire parce qu'aujourd'hui, quand on fait des recherches sur Internet, on retrouve des infos et tout. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein, fin des années 80, il n'y avait pas encore Internet comme aujourd'hui. Hein.
Et tu nous parlais là de ton patron, justement, qui était en relation avec cette enquête-là, en relation lointaine, mais tout de même. Est-ce que tu as eu plusieurs difficultés sur cette question de liberté d'expression, liberté de la presse au Brésil ?
Au Brésil, quand je travaillais au Brésil, c'était encore la dictature. Hein. Il faut savoir que les premières élections pour présidentielle, c'était en 1989, je crois. Et moi, je suis rentrée en France en 87. Donc, c'était encore la dictature. C'est vrai que j'ai commencé dans la presse dans les années 70. Il y avait encore un censeur dans la rédaction qui contrôlait tout ce qui était écrit. Et c'est pour ça que certains organes de presse, dès qu'il y avait une censure, ou ils laissaient l'espace en blanc, ils ne mettaient rien du tout, ils ne remplaçaient pas. Ou alors, ils mettaient une recette de cuisine.
Ah oui. Ah bon.
C'est-à-dire que le lecteur, il savait que là, il y avait un article qui avait été censuré.
Ah, il était au courant.
Il était au courant. Oui, il y avait plein de petits trucs comme ça qui étaient faits. Mais c'était une époque différente, très difficile pour la presse. Hein.
Et en off, justement, tu nous parlais d'un autre sujet. On s'éloigne là du journalisme, on s'éloigne totalement du journalisme. Tu nous parlais de l'horoscope. Ça existait déjà à l'époque pour la dictature.
Oui, c'était un journal où j'ai commencé à travailler dans les années 60. C'était en 73. Et chaque personne, chaque journaliste devait, pendant une semaine, écrire l'horoscope. Alors, on écrivait l'horoscope. Il y avait un roulement, comme ça, chacun.
Et comment tu écrivais l'horoscope, alors?
Mon signe, il était toujours bien. Hein. C'était toujours amour, gloire et beauté. Hein.
Toujours, que pour ton
signe. Toujours, oui. Les gens que j'aimais pas... C'était mauvaise journée. Très mauvaise journée.
En amour, pas de chance.
Restez chez vous, parce que... ça va mal se finir, tout ça.
Donc là, voilà, tu inscrivais tous les mots que tu voulais pour l'horoscope. Voilà. Ça fonctionne comme ça.
Ouais.
Voilà, la vérité est dévoilée sur l'horoscope que vous lisez tous les matins.
Ah non, mais là, je ne sais pas maintenant comment que ça se passe. Hein. Mais bon, moi, j'aime bien lire l'horoscope. Hein. Je trouve que des fois, ça donne de l'espoir.
Ça dépend qui l'a écrit.
Oui.
Après, il faut le lire avec un certain recul, quoi.
Et je crois qu'il faut tout lire aujourd'hui avec un certain recul.
Oui, certes, c'est sûr. Et outre le journalisme, tu es une fan de crochet.
Oui,
tu
alors...
Tu as découvert au Brésil ?
Le Brésil, comme le Portugal, hein, parce que nous sommes cousins, a une grande tradition art textile. Hein, pas seulement le crochet, mais tout ce qui est broderie et tout. Ça fait partie de la culture. Hein. Au Brésil, je sais que dans la maison, il y a du crochet partout. Quoi. Dans la cuisine, dans la salle de bain, il y a toujours un petit truc. En broderie, il y a toujours quelque chose.
Ce sont les Portugais qui ont exporté la broderie au Brésil.
Parce que quand Napoléon a menacé d'envahir le Portugal au 19e siècle, que Don João Sexto a pris la cour portugaise et s'est cassé au Brésil, et ils ont amené toute cette culture, cette pratique.
Artisanat, oui.
Et du coup, au Brésil, on est très crochet, très broderie, très art textile. Et moi, j'ai ramené ça avec moi. Donc, pendant plus de 10 ans, j'ai fait beaucoup de dessins pour la broderie. Et puis maintenant, je fais beaucoup de ce que j'appelle des sculptures textiles. C'est-à-dire que je recycle du matériel pour faire de la sculpture au crochet.
Donc tu as utilisé tes plusieurs années d'expérience dans la broderie pour ensuite justement créer des œuvres d'art avec le voilà. crochet.
Alors je fais des trucs au crochet, je fais des sculptures au crochet, mais c'est surtout inspiré de fonds marins. Parce que je suis très préoccupée par l'environnement, hein, on en avait parlé tout à l'heure. L'environnement, la préservation des fonds marins, parce que dans l'état où j'habitais au Brésil, il y avait une ONG qui s'occupait beaucoup de la préservation des tortues marines. Il y avait beaucoup de structures, il y avait des endroits où les tortues pouvaient venir pondre, la protection, les gens ne devaient pas venir sur la plage de tel jour à tel jour, parce que toute une histoire. Donc les fonds marins, pour moi, c'est très important. Et du coup, j'ai rassemblé tout ça pour faire des sculptures qui rappelle, d'ailleurs, quand je fais des expositions, les gens disent « Oh, on dirait des coraux, on dirait je ne sais pas quoi ».
C'est une façon de moderniser le crochet,
voilà.
Finalement.
C'est moderniser, que montrer que le crochet, c'est tendance. Ce n'est pas que le petit napperon, que la mémé, parce que les gens, ils disent « Ah oui, c'est un truc de mémé, tout, ma grand-mère ». Les gens, ils viennent dans les expos, ils disent « Ma grand-mère en faisait ». Je dis « Oui, mais il n'y a pas que la grand-mère
c'est
aujourd'hui ».
C'est super, le crochet. Moi, j'adore.
C'est jeune, le crochet.
Et c'est très tendance, hein, surtout depuis le Covid. J'ai l'impression que les gens se sont remis au crochet.
J'ai plein de copines qui en font.
Oui, le crochet, c'est très facile. On peut faire ça n'importe où. Et puis, avec n'importe quoi.
Moi, j'en ai déjà vu dans le train des gens. Tu sais, il y a des gens qui lisent, d'autres qui sont sur leur téléphone. Et il y en a d'autres
qui font du crochet.
Le crochet, c'est ludique, c'est inspirant, je trouve.
Combien de temps d'apprentissage, justement, pour apprendre à pratiquer le crochet, je trouve quand même que
c'est comme
très
le
long.
Vélo.
C'est quand même très long.
Non, c'est comme le vélo. Au début, on tombe
pratiquer.
Et tout, il faut se remettre, il faut pratiquer. Hein. Et moi, maintenant, je fais ça les doigts dans le nez parce que ça fait au moins 50 ans que je fais du crochet. Là.
Oui, donc là, voilà.
Tu fermes les yeux et...
Non, ça va tout seul, c'est quoi. Ça monte tout seul. J'invente des formes parce que moi, j'ai aucun dessin. Les choses que je fais, c'est ce que ça me sort de la tête, quoi. Des trucs, des formes différentes qui rappellent les fonds marins ou qui rappellent les jardins. Des fleurs, des choses comme ça. J'adore les fleurs.
Et quand on pense au crochet, on qualifie aussi cette pratique de slow fashion. C'est la mode durable. Finalement, tes créations, c'est une alternative aussi à la fast fashion, à tous ces vêtements-là.
Oui, parce que j'utilise que du matériel recyclé. Que ça soit la laine, le coton. J'achète beaucoup dans les vide-greniers, chez Emmaüs, des trucs comme ça. Je reçois beaucoup de dons aussi. Je reçois des manches de pulls qui ne sont pas finis. Je reçois plein de trucs que je défais et que tout est recyclé. Et le support, des fois aussi, c'est du recyclage. Ça peut être un égouttoir que j'ai trouvé dans la rue, dans les encombrants, un devant de ventilateur.
Tu sauves des objets.
Je prends les objets, je me passionne par les vieux trucs, par les vieilles choses.
C'est Blob Sarkin, c'est très bien, c'est une très bonne idée.
Voilà, et puis je trouve qu'on peut faire plein de trucs en utilisant. Il faut arrêter d'acheter, il faut arrêter de consommer, il faut utiliser ce qu'on a, et puis voilà. Quoi.
Et puis c'était un très bon message aussi pour l'écologie.
Voilà, la préservation de l'environnement, arrêtons de consommer, parce que les gens ils parlent de coton et tout, mais il faut savoir que le coton a besoin de beaucoup d'eau. Et il faut savoir que l'eau devient de plus en plus rare, donc arrêtons d'acheter des vêtements, utilisons ce qu'on a pour refaire, on peut faire plein de choses avec ce qu'on a.
Anissé Catelli, on va faire une courte pause et on se retrouve dans quelques instants, toujours sur Radio Alpha. Cette fois-ci, on va parler de tes expositions, les prochaines expositions où tu seras. Tout de suite. Et on poursuit cette interview avec Annie Cicatelli, journaliste et artiste spécialisée dans la broderie. On parlait il y a un instant de ton parcours, Annie, de ta vie aussi au Brésil. On va maintenant parler de tes prochaines expositions. Un salon qui débute en début de semaine, le salon pour l'amour du fil. Et tu seras présente.
Alors, je serai présente avec des dessins pour la broderie sur un stand qui s'appelle les Trésors d'Amy. C'est les gens qui me représentent au niveau broderie. Donc moi, je ne serai pas de corps présente, mais mes œuvres, mes dessins broderies, parce que en broderie, je fais beaucoup de tapis miniatures. Donc mes dessins seront disponibles lors de ce salon. Après, j'ai une exposition crochet au mois de juin à la Halle des Blancs-Manteaux. Ça s'appelle Expo 4 Art. C'est dans le Marais. Je fais 4 fois par an. Il y en a en juin, en septembre, en décembre. Et là, j'ai fait en février aussi.
Et c'est une exposition qui va réunir 70 artistes.
Oui, c'est de l'art contemporain. Hein. Il y a de tout. Il y a de la peinture, il y a de la sculpture. Et puis, il y a moi. Il n'y a que moi qui fais de la sculpture.
Tu es la seule à faire de la broderie, à
exposer. L'art textile, oui. Art textile, oui. C'est très... Il y a que au nouveau crochet art textile, il n'y a que moi en France.
En France ?
Ouais.
T'es l'une des seules à...
Il y a beaucoup au Portugal. Oui, il y a Vanessa Barragão, je crois qu'elle s'appelle. Il y a Joana Vasconcelos, oui, qui a fait une superbe exposition même au château de Versailles il y a quelques années. Qui travaille pour des grandes marques de luxe.
Moi, je l'ai vue à Vincennes, son exposition.
Oui, à l'Arbre de vie, très très belle expo. C'est au château, oui, oui.
C'est dans l'église, je crois. Dans la
non, dans, oui, dans la chapelle du château. Oui. C'est très beau, très très beau. Il y a beaucoup de choses.
Elle est incroyable,
niveau...
cette femme. Hein.
Ouais, ouais.
Et puis, pareil, elle avait fait le décor d'un défilé à la Fashion Week. Dior.
Très beau décor. Magnifique décor.
Ah ouais, super décor.
J'espère que tu vas apprendre la suite.
Après combien de temps
Elle est très pointue. Hein. Elle a une équipe d'ingénieurs qui travaillent avec elle.
Voilà, hein. Moi, j'imagine dans son atelier, ils sont beaucoup.
Ils sont énormes. C'est une grande équipe.
Tu es seule, hein.
Moi, je suis seule. Moi, je suis toute seule chez moi. J'arrive même pas à installer un atelier, tu vois. J'ai du mal. Hein. Je commence déjà à suffoquer sur les œuvres. Je crois que les œuvres sont en train de prendre tout l'espace vital. Mais voilà. Alors, et puis, je serai aussi au Salon Maison et Objets au mois de septembre. Dans la partie métier d'art, parce que la sculpture textile est considérée métier d'art. Et puis, je serai aussi au niveau broderie dans une exposition au mois de novembre du côté d'Orléans.
Très bien.
Il y a plein de choses.
Plein d'événements qui arrivent.
Il y a beaucoup de
choses.
Beaucoup de travail. Et puis, je participe à beaucoup de concours parce que j'adore participer à des concours. Normalement. J'adore. Non, parce que ça t'oblige à réfléchir sur d'autres choses et tout.
Oui, puis ça t'oblige à sortir de ce que tu as l'habitude de faire, en fait.
Voilà.
Parce que tu dois toujours te challenger.
Voilà. Déjà, dans un concours, il y a le thème qui est prédéterminé, que tu dois t'adapter au thème, et puis il y a les dimensions aussi. Okay. Là, je participe à un concours, la dimension, c'est 1m80.
Wow,
donc,
c'est
un truc énorme. C'est énorme. Imagine faire 1m80 de crochet.
Vous avez un temps défini aussi ou...
Ah oui, il y a une date de clôture des inscriptions.
Ah oui, c'est pas... Il faut faire ça en une heure, par exemple. C'est pas comme Top Chef.
Non, non, c'est pas Top Chef. C'est pas
Vous
top
avez
chef.
3 minutes pour faire un apron.
Non, c'est pas Top Chef. C'est des mois de travail.
En gros, vous envoyez les œuvres jusqu'à une date limite et puis après, il y a un jury.
Dans un premier temps, ce sont les photos qu'on envoie. Okay. Hein. On envoie un dossier avec des photos, avec toutes les informations, numéro de sirette et tout.
Wow.
local où on travaille, des photos d'endroits où on travaille. Normalement, les gens, ils demandent ça aussi.
Okay.
Quand on a un atelier, c'est mieux. Mais bon, moi, pour l'instant, je n'ai pas encore d'atelier.
T'envoies une photo de ton canapé.
J'envoie de mon salon, qui est un truc, une caverne. Mais c'est l'endroit où je travaille. Et il y a des dates, et puis on attend. Alors, je reçois beaucoup de noms. Hein. Je reçois beaucoup de... C'est drôle parce que, dans un premier temps, quand la personne reçoit le dossier, elle est impressionnée parce que c'est des choses que les gens ne sont pas habitués à voir en France. Je ne parle pas du Portugal ou du Brésil, mais en France, les gens, ils ne sont pas habitués. Les gens, ils demandent, mais il n'y a que vous qui faites ça et tout. Et après, non, malheureusement et tout, parce que là, on est beaucoup au céramique cette année, l'année dernière et cette année.
Tendance.
C'est très tendance à céramique. Donc, je suis très décalée par rapport à la céramique.
Mais tu peux quand même t'adapter avec le crochet, finalement, ça s'adapte facilement.
J'ai créé une section céramique où je fais des pièces qui ressemblent à de la céramique.
Combien de vies as-tu?
J'en ai j'en ai au moins 7, oui, au moins 7.
C'est pas 9 vies, les chats?
C'est pas 7. Je sais pas. Beaucoup de vies.
Beaucoup trop.
Oui, mais je m'ennuie jamais, quoi. C'est ça le truc, quoi. Il faut jamais s'ennuyer.
En tout cas, on te souhaite bon courage pour ce prochain concours. Et puis, on a bien noté les prochaines dates. Alors, prochaine exposition 4 arts à Paris, du 7 au 9 juin. Qu'on note dans nos agendas. Et puis en ce début de semaine, il y a également une autre exposition. On pourra retrouver ton travail, un autre salon pour l'amour du fil. Merci Annie d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes ces questions-là et cette interview. Pour la conclure justement, quelle musique tu souhaites écouter?
J'aimerais bien revenir sur Gilberto Gil, Pauco. J'adore Gilberto Gil.
Allez, on se l'écoute et on se retrouve juste après pour la rubrique musicale de Tony.
Saberá lhe dar valor, dá valor. Vale quanto pesa pra quem preza o louco bumbum do tambor. Do tambor, fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Sei que muitos têm na testa o Deus só como um sinal. Um sinal. Eu como devoto trago um cesto de alegrias de quintal. De quintal. Há também um cântaro, quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar, pra deixar. Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Hey!
parti pour la rubrique musicale ce samedi. Tony, toujours dans la bonne humeur, toujours souriant, Tony.
Bah ouais, mais pourquoi, bah oui, pourquoi pleurer?
Pourquoi pleurer surtout?
Pourquoi être triste?
Surtout avec les bonnes musiques que tu nous présentes. De qui tu vas nous parler aujourd'hui? Je sens que c'est des artistes que tu aimes bien.
Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup. Ils faisaient partie de mon classement, tu rigoles, mais parce que je sais que tu te moques de ça, mais ils faisaient partie de mon classement des artistes les plus écoutés l'année dernière sur Spotify.
Je le sais bien.
Et moi-même, je m'y attendais pas. Maintenant, je vous présente ceux qui sont peut-être les deux frères les plus connus de la musique portugaise. Et s'ils ne sont pas les plus connus, ils ne doivent pas être très très loin derrière. Ensemble, Ney et Herd cumulent plus de 50 millions d'écoutes uniquement sur les plateformes digitales, sans compter les ventes physiques qui étaient encore très 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 populaires à leur époque, à leur début, lors de leur premier succès. Et si vous n'avez toujours pas deviné de qui il s'agit, vous allez très très vite le comprendre. Place à la musique et alors tout dernier single, Ayoué, c'est tout pour vous.
Ayoué, se eu te pegar, você vai ver nós dois juntinhos no rolê. Vou botar muita pressão. Ayoué, se eu te pegar, você vai ver nós dois juntinhos no rolê. Agora não se apega, não. Já tô em casa, relaxa aí que aqui não passa nada. Vou dormir mais cedo pra ficar pensando em você.
Ei, meu irmão, dei um migué na minha namorada. Agora tô saindo pra balada, com a área VIP toda liberada. Vem pra curtição,
a festa tá lotada,
tem gata assanhada,
rolando o maior clima
com essa mulherada.
Mas quando eu te contei,
eu me apaixonei
e fui chegando até o bar.
Pedi uma gelada
e copo pra nós dois.
Você veio depois,
o jogo começou,
aumenta a tensão
e eu falei: ai, Ué, se eu te pegar, você vai ver nós dois juntinhos no rolê. Vou botar muita pressão. Ai, Ué, se eu te pegar, você vai ver nós dois juntinhos no rolê. Agora não se apega, não. Relaxa aí que aqui não passa nada. Vou dormir mais cedo pra ficar pensando em você.
Ei, meu irmão, dei um migué na minha namorada. Agora tô saindo pra balada, com a área VIP toda liberada. Vem pra curtição,
a festa tá lotada,
tem gata assanhada,
rolando o maior clima
com essa mulherada.
Mas quando eu te contei,
eu me apaixonei
e fui chegando até o bar.
Pedi uma gelada
e copo pra nós dois.
Te dei uma encarada,
você veio.
O jogo começou,
aumenta a tensão
e eu falei:
ai, Ué, se eu te pegar, você vai ver nós dois juntinhos no rolê. Vou botar muita pressão. Ai, Ué, se eu te pegar, você vai ver nós dois juntinhos no rolê. Agora não se apega, não. Ai, Ué, se eu te pegar, você vai ver nós dois.
Cette semaine, je vous présente les excellents Ney Manouche. Né dans une famille de pêcheurs à Peniche, dans le centre du Portugal, les frangins ont très tôt montré un certain attrait pour la musique. Et malgré les revenus modestes de leurs parents, ils ont toujours bénéficié d'un soutien sans faille pour leur passion. Et ça a commencé avec Ney, l'aîné de la fratrie qui a suivi des cours de flûte, puis de piano, avant que son cadet, Herd, le suive dans l'aventure. La suite, elle s'est écrite au conservatoire de Torres-Vedras, et peu après, à l'aube de l'an 2000, le groupe Ney Manouche voit le jour par ce nom et commence les représentations sur les différentes scènes locales. À leur début, les artistes ont la chance d'être repérés et produits par Emmanuel, l'un des grands noms de la chanson populaire portugaise. Et parmi leurs premiers tubes, vous connaissez forcément l'incontournable Pache. Au fil de leur carrière, les Ney Manouche ont su se démarquer par leur style singulier, très festif, très dansant, très coloré, qui ne laisse personne indifférent, et encore moins Léa, parce que je sais qu'elle adore. Et depuis 2010, l'histoire de famille a pris une nouvelle dimension encore. Au revoir Emmanuel, merci pour tout, mais désormais, les deux frères font tout tout seuls. Avec une équipe soigneusement constituée par leurs soins, fidèles à leurs valeurs, les Nemanja produisent eux-mêmes leur musique. Et ce changement de direction, qui paraissait osé au début, a fini par porter ses fruits, puisqu'aujourd'hui, le groupe compte des dizaines et des dizaines et des dizaines de succès dans leur discographie.
Et pour te faire plaisir, Tony, on finit avec la musique Baijiu de Funana. Je sens que ça va te faire danser. Les auditeurs aussi vont sûrement danser, en tout cas certains, je pense que c'est sûr. On se retrouve dans quelques instants pour la fin de l'émission à Termstad 2.
Xinga tribo aquí, onde reina o nosso som. Funana que eu vou. Energia sim, ao sentir o teu calor. Euforia em mim, vou explodir no teu amor. E deixa eu sentir o teu corpo suar, quando estás colado em mim, sentir o teu beijo dar. Ter o teu gostinho em mim, fazer o teu corpo ficar. Vai ferver teu mundo em mim. Deixa eu sentir o teu corpo suar, quando estás colada em mim, sentir o teu beijo olhar. Ter o teu gostinho em mim, fazer o teu corpo ficar. Vai ferver teu mundo em mim. Lele, 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 lele. Nosso som. Tum, 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 bateu. Funana que eu vou. Energia sim, ao sentir o teu calor. Euforia em mim, vou explodir no teu amor. E deixa eu sentir o teu corpo suar, quando estás colado em mim, sentir o teu beijo dar. Em mim, fazer teu corpo ficar. Vai ferver teu mundo em mim. E deixa eu sentir o teu corpo suar, quando estás colada em mim, sentir o teu beijo olhar. Ter o teu gostinho em mim, fazer teu corpo ficar. Vai ferver teu mundo em mim. Lele, 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 lele.
À Termstad 2.1. J'espère que ça vous aura plu, que vous passez un très très bon week-end, que vous allez passer un excellent samedi et dimanche. Et avant de se quitter, quelques bons plans.
Alors déjà, quelques événements. Vous savez qu'il y en a beaucoup en ce mois d'avril. Comme d'habitude, je vous invite à consulter l'agenda Luso de Cap Magellan ou à vous rendre sur le site de la Fondation Calouste Gulbenkian de Paris, qui a aussi dédié un agenda aux commémorations du cinquantenaire de la Révolution des œillets. Donc tout d'abord, ce soir, 13 avril, 19h30, il y a un concert de fado à Bourges, organisé par l'association France-Portugal. Si vous y êtes, n'oubliez pas de faire des petites stories et de nous identifier. On reposte tout. Ensuite, vous le savez, on a reçu il y a quelques temps Isabelle Ribeiro, qui est à l'origine de la pièce Saudade ici et là-bas. Donc le 18, 19 et 20 avril à 20h et le 21 avril à 16h30, ils se représenteront au Théâtre des Muses à Monaco. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent de là-bas, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Ensuite, quelques parutions de livres. Donc déjà le 19 avril, on a la publication du livre « Découvrir la révolution des objets » de Hugo Payette par les éditions sociales, et également le vendredi 19 avril à 19h à la librairie des nouveautés, il y a le lancement de la deuxième collection de Exil, des témoignages sur, sur l'exil des Portugais par les éditions Chandaigne. Également, vous le savez, ce mois d'avril, on a un épisode du podcast par semaine, donc cette fois c'est avec les historiens, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Et bien sûr, Léa, notre concours pour gagner le livre de Victor Pereira sera disponible dès lundi. Je sais que la maman d'Edouard veut participer, donc on lui fait des gros bisous.
Et Annie aussi veut participer.
Bien c'est vrai. Ça va se battre entre les deux là. Hein.
Je sens qu'on va avoir beaucoup de participants pour ce nouveau concours. Merci beaucoup d'avoir suivi Termstadt 2. Ce samedi, je vous souhaite un très bon week-end. Une très bonne fin d'après-midi également. Annie Cicatelli, journaliste et artiste, merci d'avoir été avec nous ce samedi.
Ah, merci, c'était très bien, on s'est bien marré, on a bien rigolé, j'ai découvert plein de choses, plein de nouvelles musiques.
C'est vrai.
Et merci, merci pour cette invitation.
Merci à toi de nous avoir partagé ton expérience. Et puis, un grande abraço. C'est ce qu'on dit au Brésil, comment on se dit
un
au revoir
grande abraço, ciao, até a próxima.
Até a próxima. À tous, até a próxima. Et rendez-vous samedi prochain dès 14h sur Radio Alpha pour une nouvelle émission. Bon week-end.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dime cómo hacemos. Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. ¿Di qué vas a hacer? Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa, que no duró mucho soltera. Aprovechame. Tienes como pa' derretirte, solo Dios sabe lo que me hiciste.